Aujourd'hui, la paix mondiale repose sur un équilibre plus fragile que jamais.
La bombe est entre leurs mains.
Et puis, il y a les bombardements qui détruisent partiellement ou complètement des villes et des villages.
Si cela se produisait, les Américains pourraient le faire.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes, d'une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenchant du palais de la
sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Cela a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
C'est un bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bonsoir et bienvenue à vous pour une nouvelle édition de notre magazine d'info du mardi 19-20h. Ce mardi, l'essentiel de l'émission sera consacré aux rencontres de la Fédération de l'audiovisuel participatif. C'était entre jeudi et dimanche dernier à Orléans, à l'invitation de Zotelli, zone de télévision libre basée au 108 Maison Bourgogne. Zotelli, télé participative que vous connaissez certainement. Une quarantaine de personnes, d'une trentaine de structures étaient présentes. Nous en entendrons quelques-unes et quelques-uns dans cette émission. C'est d'ailleurs l'unique sujet de ce mardi dans Un bâton rompu. Encore une fois, bienvenue à vous.
Un bâton rompu avec Hassan Kerim.
Rencontre donc des médias audiovisuels participatifs à Orléans, jeudi à dimanche dernier. Ces médias que le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme tiers secteur audiovisuel, mais qui sont si utiles dans les territoires en matière de liens sociaux, d'éducation aux médias, depuis plus de 30 ans. Zotelli, la télévision participative installée au 108 Maison Bourgogne, recevait des structures venues de toute la France pour discuter de formation à l'éducation, aux médias et à l'information, EMI. Deux structures en région Centre-Val-de-Loire sont membres de la fédération, Zotelli et MAP36 à Châteauroux. Seulement deux. Dominique Flura est bénévole à MAP36, écoutez-la.
C'est une web TV, mais nous, on utilise l'audiovisuel participatif au service de projets. Donc, on travaille avec des personnes différentes en fonction de ces projets. Ça peut aussi bien être un projet dans l'éducation nationale, donc avec des élèves co-construit avec des enseignants, qu'un projet sur le territoire, par exemple pour dynamiser les acteurs pour le projet du Sud-Berry, Parc naturel Sud-Berry, ou bien sur la politique de la ville, dans ce qui se passe sur les quartiers, donc faire parler les habitants, les faire s'exprimer sur les projets qui sont liés à la politique de la ville, que ce soit sur l'habitat, sur les constructions, leurs centres sociaux, l'animation, voilà. La question de l'éducation aux médias, ça s'adresse à tout le monde. Quelque part, c'est aussi une éducation à la citoyenneté, de savoir repérer les informations qui sont des vrais faits. On parle beaucoup de fake news, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer comment on construit une information, comment on respecte la parole des personnes, comment on fait de la recherche, comment on croise ses sources. Donc tout ça, ça relève du travail qu'on fait quand on travaille avec l'audiovisuel participatif et avec les acteurs. Mais on se rend compte que quand les personnes, que ce soit adultes ou jeunes, font leur propre sujet, ils découvrent comment on peut jouer sur une ambiance, comment on utilise la musique, qu'est-ce qu'on retient comme phrase quand on fait une interview, comment on va aller, pas pousser dans ses retranchements, mais interpeller des responsables. Et le fait de les préparer à faire de l'interview d'institutionnel, ça leur permet aussi de développer leur parole et puis d'aller vraiment à la recherche de l'info.
Le réseautage, le réseau en région centre, il en est où ?
Alors c'est un peu difficile et quelque part j'allais dire c'est pas forcément une question d'institution et d'accompagnement des institutions. Alors est-ce que c'est le fait qu'on soit en proximité de la région parisienne qui absorbe toutes les énergies ? Je n'en sais rien, mais il n'y a pas énormément en fait de médias citoyens. Il y a quelques journaux sur les quartiers, radio, des choses comme ça. Mais on a commencé un travail notamment avec notre conseiller audiovisuel de la DRAC, Monsieur Le Serre, pour voir comment justement, à travers notamment les dispositifs d'éducation aux médias, commencer à faire un réseau de différents intervenants, qui soient dans l'éducation populaire, qui soient de radio, de petits journaux, etc. Donc ça va se construire, mais c'est vrai que nous, on est plutôt en recherche de porteurs de projets, puisque là, sur la Fédération de l'audiovisuel participatif, à part Zotelli, donc au 108 à Orléans, et nous qui sommes à Châteauroux, on n'a pas d'autres adhérents à la Fédération nationale.
Un réseau qui pourrait se faire avec l'École publique de journalisme de Tours. Le PJT propose avec l'Université de Tours un certificat de compétences professionnelles éduquées aux médias et à l'information destiné à former des journalistes et professionnels des médias, des professeurs documentalistes, des agents des bibliothèques et médiathèques. Laurent Bigot est directeur de l'EPJT.
L'éducation aux médias, ça fait partie aussi du rôle des journalistes. Et en tant qu'école de journalisme reconnue, on est, c'est vrai, une des 14 écoles reconnues par la profession, on a aussi ce devoir de formation des futurs professionnels des médias pour qu'ils puissent eux aussi transmettre au public, transmettre aux plus jeunes, mais aussi à tous les types de publics, les notions qui leur sont utiles pour s'informer, pour comprendre les enjeux informationnels et ainsi exercer pleinement leur citoyenneté.
Certains disent qu'il est déjà trop tard. La défiance vis-à-vis des journalistes, elle est ancrée notamment chez les jeunes et qu'il est trop tard.
Non, je pense pas qu'il soit trop tard. Je pense qu'il y a simplement un travail beaucoup plus important à faire en termes d'éducation face à la population. On a totalement négligé en fait ces aspects informationnels. On a continué trop longtemps et on continue pour une part à le faire à indiquer des notions qui sont plus ou moins les mêmes que ce qu'on faisait il y a 30 ans et même peut-être 40 ans au moment de la naissance du Clémy. Il faut changer de braquet, il faut faire bien plus, il faut faire différemment et il faut inscrire à tout prix les questions de capacité à s'informer correctement dans les programmes scolaires avec des heures dédiées parce que pour faire des futurs citoyens, maîtriser aujourd'hui l'environnement informationnel, c'est aussi important que de maîtriser un cours d'histoire ou un cours de sciences.
De fait, Elodie Cerquera est présidente du Club de la presse Centre-Val de Loire et ancienne étudiante de l'EPJT. Elle était présente également à l'atelier consacré notamment à l'éducation aux médias. Elle s'y intéresse depuis plusieurs années maintenant. Je lui ai demandé s'il fallait forcément être journaliste professionnel pour éduquer aux médias. Écoutez sa réponse.
Nous, au Club de la presse, par définition, effectivement, on va agréger les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information par les journalistes, mais aussi par des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, et chacun apporte sa brique à l'édifice. Maintenant, on ne ferme pas les portes, effectivement. Être journaliste n'est pas un sésame en soi, de la même manière qu'on peut être très bon journaliste, mais pas forcément bon éducateur aux médias. On peut être un très bon éducateur aux médias et pas forcément un bon journaliste. Je pense que tout est envisageable, parce que l'éducation aux médias, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est une compétence qui vient s'ajouter aux autres. Il faut savoir être pédagogue, connaître les publics auxquels on s'adresse, savoir dans quel atelier on va être à l'aise et là où on le sera moins. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde et tous les profils. Si tant est qu'on soit mu par un vrai engagement à cet égard, parce qu'il y a un enjeu derrière citoyen, politique, démocratique, et c'est ça qu'on porte. Donc après, effectivement, les journalistes vont apporter leur regard par rapport à leur pratique journalistique et par rapport à l'usage informationnel, mais on peut très bien imaginer aussi un spécialiste du numérique apporter sa brique au niveau des outils numériques, les algorithmes, les bulles de filtre. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont culturellement engagées dans l'audiovisuel, qui peuvent aussi avoir un point de vue très important sur l'image, comment on travaille l'image. Aujourd'hui, l'image nous a complètement envahis. Le son, voilà. Tout ça, donc en fait, finalement, c'est pas tant d'être ceci ou cela, c'est comment on peut tous travailler ensemble. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on mutualise nos compétences. Et envisager peut-être de faire des ateliers à plusieurs, avec tous des profils différents, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisateur final. C'est l'élève, c'est le jeune de banlieue, c'est la personne âgée, ça peut être une personne d'un culte religieux. Enfin, tout le monde, le citoyen, quel qu'il soit, quel que soit son âge, c'est pour lui qu'on le fait. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue.
Faire des ateliers à plusieurs, mutualiser les compétences, c'est aussi le souhait de Xavier Louvel, chargé de projets artistiques, culturels et socio-éducatifs à Cyclic, l'agence régionale pour le livre, l'image et la culture numérique en région centre. Il est en charge, Xavier, de passeur d'image, pardon, un dispositif national d'éducation à l'image hors temps scolaire.
J'ai la chance de porter le dispositif passeur d'image pour le territoire régional Centre-Val-de-Loire, qui est un dispositif de lutte contre l'exclusion culturelle sur le hors temps scolaire et qui est suffisamment poreux et flexible pour à la fois s'interroger sur l'éducation aux images. Et dans l'éducation aux images, je considère que l'éducation aux médias en fait partie aussi modestement, et du haut de notre génétique et l'éducation aux images. Et qu'est-ce que moi je peux apporter comme complément d'action et de formation sur cet aspect-là. Alors l'idée, c'est que je ne suis pas spécialiste pour faire intervenir notamment des journalistes, reporters, information d'image, etc. Non, il n'en reste pas moins que je m'interroge sur l'image en mouvement, ce qui constitue aussi la grande partie de l'information aujourd'hui. Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de me questionner sur comment s'opère la construction de l'image informative aujourd'hui. Et c'est pourquoi la subjectivité des réalisateurs, des créateurs qui font les images aujourd'hui est intéressante. Et c'est pourquoi, en fait, je peux arriver à monter des projets. Ce que j'essaie toujours que mes projets soient de projets de territoire, de mixité sociale, d'intergénérationnalité. Et notamment, on a monté depuis 2018 un projet liant les villes de Tours et de Blois qui s'appelle FEC Investigation, qui est en trois volets, un volet de formation en direction des éducateurs pour aussi les autonomiser sur cette question de l'éducation média à l'information, en passant par la construction des théories de complot dans les images aujourd'hui, jusqu'à après un volet action avec de la réalisation sur des journées encadrées par des réalisateurs où ils vont inventer leur propre théorie de complot fictive, etc. C'est pour ça qu'on est entre à la fois l'éducation artistique et culturelle et l'éducation aux médias. Et ensuite, un troisième volet, parce que l'idée, c'est de proposer un champ et un contre-champ. Donc, c'est pas de leur apprendre à mentir en images en mouvement. L'idée, c'est aussi de leur apprendre à contrecarrer. Donc, c'est pour ça qu'on finit par un troisième volet, une journée concours Pocket Film, parce que le téléphone portable, c'est une représentation du monde avec proximité du sujet, spontanéité du geste que nous avons toute la journée dans la poche. Et on peut ne plus être passif quant au monde qui nous entoure, mais être finalement journaliste, entre guillemets, de notre quotidien. C'est pour ça qu'il est question, sur cette troisième journée, de contrecarrer les faux reportages qui ont été réalisés en amont. Sur une journée concours avec des règles bien précises de reportage. Et on voit qu'instinctivement, finalement, les jeunes se réapproprient les codes du reportage. Et c'est bien par la pratique, sans non plus faire des leçons d'esthétisme, qu'ils se réapproprient finalement les codes du reportage.
Qu'en est-il du soutien et du financement de ces structures, des médias participatifs ? Une loi en août 2001 avait permis aux collectivités de créer ou de soutenir des chaînes d'information locales, mais l'État n'avait pas accompagné tout de suite ce vote de moyens, comme d'habitude. Il n'existe pas donc de fonds spécifiques pour les télés locales participatives, pardon, comme il en existe pour les radios. Certes, après l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, un fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité avait été créé créé, puis une aide exceptionnelle pour les télés et radios locales en avril 2001, mais on est loin du compte. Benoît Le Cerf est conseiller cinéma de l'image et des usages numériques à la direction régionale des affaires culturelles, DRAC Centre. Il était présent également lors de l'atelier EMI. Il a répondu à des questions, aux questions des structures présentes, pardon, et puis au micro d'un bâton rompu.
En région Centre-Val de Loire, la DRAC accompagne et porte une réelle politique en faveur de l'éducation aux médias et à l'information depuis 2019. Donc le lancement a été un petit peu progressif 2019-2020. Et là, depuis vraiment 2021, il y a une vraie volonté de développer un fort soutien aux actions d'éducation aux médias et à l'information portées à la fois par les journalistes sous forme associative ou divers, par les médias de proximité, mais également aussi par des structures d'éducation populaire comme les ligues de l'enseignement. Et pour cela, le fer de lance de cette politique depuis 2019, c'est un appel à projet que mène la DRAC tous les ans au printemps. Cet appel à projet nous permet d'accompagner entre 10 et 15 acteurs portant eux-mêmes plusieurs projets sur l'année. Et l'idée, depuis maintenant 3 ans, c'est d'aussi impliquer les différents pouvoirs publics et les différentes structures de l'État qui sont impliquées dans le MI autour de cet appel à projet, puisque dorénavant, parmi les membres du jury du comité, il y a également le CLEMI et un représentant de l'école de journalisme de Tours. L'idée ici, c'est aussi que ces temps d'instruction et de commission sur l'appel à projet permettent d'échanger avec les porteurs de projets et aussi éventuellement de les conseiller, de les indiquer, d'avoir aussi un retour avec différents experts issus de différents champs sur leurs projets, de manière aussi à les faire grandir. Là, c'est l'endroit auquel on se retrouve maintenant et on a envie d'aller plus loin en s'inspirant de ce qui a pu être porté, notamment dans les Hauts-de-France. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait créer un réseau des structures volontaires pour incarner l'éducation aux médias et à l'information à l'échelle du territoire, à travers peut-être dans un premier temps l'organisation de journées de formation et d'échange. D'ailleurs, la DRAC et le CLEMI et le PJT porteront 2 journées d'échanges et de formation ouvertes gratuitement à l'ensemble des acteurs régionaux de l'EMI à l'automne prochain. L'idée, c'est que ces journées puissent aussi permettre de servir de base à, pourquoi pas, une structuration, une mise en réseau, une meilleure connaissance entre les acteurs de leurs pratiques, de manière à ce que chacun s'en enrichisse et que l'on puisse continuer à travailler cette question qui est ô combien importante.
Sûr et certain, Radio Campus sera présente, Radio Campus Orléans en tout cas, sera présente à ce colloque, je crois, cette rencontre en tout cas, dont nous a parlé Benoît Le Cerf de la DRAC Centre. Un des problèmes pour le ministère de la Culture est qu'il y a de plus en plus d'initiatives sur l'éducation aux médias et à l'information en France. Des initiatives dispersées et qui manquent de coordination selon Jean-Christophe Théobalt, chargé de culture numérique, d'éducation aux médias et à l'information au ministère de la Culture.
Le problème de l'EMI, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, d'actions un peu partout, mais qui sont assez dispersées, qui manquent effectivement de coordination, de mutualisation. Donc effectivement, il y a un enjeu là-dessus, et puis que les gens apprennent à se connaître dans des secteurs assez différents, puisque en EMI, il y a effectivement des journalistes, des bibliothécaires, des enseignants, il y a plein d'acteurs qui interviennent, et souvent c'est des cultures et des réseaux un peu séparés. Enfin, c'est un peu le travers français, quoi. Chacun est dans son couloir. Donc essayer un peu de décloisonner tout ça et de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître, effectivement, et apprennent à coopérer, c'est un des enjeux qui est important, mais c'est un travail de longue haleine. Après, ça ne se décrète pas, je pense qu'il faut aussi que ça parte à la fois qu'il y ait un accompagnement institutionnel, mais effectivement qu'il y ait une volonté des acteurs de terrain de se fédérer. C'est ce qui s'est passé, l'exemple, c'est Hémicycle en Haute-France, mais qui est quand même parti des acteurs de terrain, et après qui a été fortement accompagné par la DRAC Haute-France et aussi par la région. Donc voilà, quoi. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait la rencontre de la volonté du terrain et puis de l'accompagnement institutionnel, quoi. Donc en région centre, je pense que ça devrait finir par se faire, puisque là il y a un peu une volonté, et puis il y a donc ces 2 journées qui sont prévues prochainement, quoi.
Oui, c'est prévu, en tout cas. La région Centre est aussi une collectivité hein, qui aide déjà la filière, mais qui pourrait peut-être faire plus. C'est en tout cas le souhait de quelques structures. Gaëlle Lahoro, vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire, chargée de la démocratie permanente, de la citoyenneté, des initiatives locales et de l'éducation populaire, était présente. Elle a pu discuter avec, elle est venue échanger avec les participantes et participants aux rencontres. Et les médias participatifs, c'est donc une des composantes de cette délégation. Elle nous répond.
Les médias participatifs, c'est une composante de ma délégation. C'est vrai que l'éducation populaire, l'éducation à la citoyenneté, ça passe par des médias participatifs qui peuvent développer l'esprit critique des personnes qui participent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou plus âgés. Hein. Vraiment, l'éducation populaire et l'éducation aux médias, l'éducation à la citoyenneté, c'est vraiment à tous les âges. Il ne faut pas restreindre ça aux jeunes et je pense que c'est important. C'est ce qu'on voit aussi lors de ces rencontres par les témoignages de tous les acteurs.
Depuis deux jours, des témoignages évidemment, des retours d'expérience. Et puis beaucoup, hier en tout cas, on a beaucoup parlé de réseautage, de réseau. J'ai pu interviewer des associations, même le PJT, qui disent la région centre ou les élus auraient un rôle important à jouer pour qu'on puisse avoir un réseau en région.
Avoir un réseau, les réseaux c'est essentiel. Les réseaux c'est essentiel pour les acteurs, mais aussi pour les élus et aussi pour toutes les structures. Et nous, c'est vraiment notre ambition en région Centre-Val-de-Loire de mettre toutes ces personnes en lien. Et on va avoir des rencontres de la démocratie permanente et l'éducation populaire à Bourges en février. Et vraiment, l'idée de ces rencontres, c'est pas de mettre la région en avant, ce qu'on fait. Non, c'est juste de mettre en lien tous ces acteurs pour qu'ils puissent échanger, partager leur expérience, s'inspirer les uns les autres et puis repartir reboostés avec l'énergie. Et le AMAP, enfin les acteurs de l'audiovisuel participatif sont un aspect qu'on aimerait mettre en avant lors de ces rencontres.
Et l'éducation média, un mot ?
L'éducation aux médias, moi je suis ancienne journaliste, j'étais journaliste pour l'émission C'est pas sorcier. J'ai proposé une émission sur les vers de terre et c'est comme ça que je suis rentrée à C'est pas sorcier. Donc je connais bien pour avoir été derrière la caméra et je sais combien c'est essentiel. Et les médias pour moi c'est essentiel et c'est essentiel dans notre démocratie, c'est le quatrième pouvoir. Et là on voit bien qu'elle est malmenée un petit peu et que les médias ils sont pour quelque chose. La concentration des médias aux mains de quelques-uns qui imposent un peu leur sujet est très très problématique pour la démocratie. Et moi je pense que les médias... la façon dont ils fonctionnent actuellement sont responsables de la crise de démocratie, les réseaux sociaux aussi. Il y a eu des articles des chercheurs de CNRS qui montrent bien toxic data, comment les réseaux, les algorithmes, ils dirigent les pensées, les réflexions des citoyens et puis même certains partis politiques. On a des biais cognitifs, on va peut-être plus s'accrocher sur des titres qui sont négatifs que positifs et ça influe sur nos manières de penser et sur nos votes. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, in other words, I love you. In other words, hold my hand. Me.
In other words, please be true.
On a appris ce matin le décès d'Astrud Gilberto, icône de la musique brésilienne, de la samba en tout cas. Hommage dans un bâton rompu ce soir avec cette superbe reprise de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Un bâton rompu, la suite. La suite.
À bâton rompu, oui. Sur Radio Campus Orléans c'est et ici. Radio Campus Tours, c'est ici. Tous les mardis de 19h à 20h.
Merci à toi. On continue, hein, vous le savez, si vous avez pris l'émission depuis le début, nous parlons des rencontres de la Fédération des médias audiovisuels participatifs à Orléans. C'était en fin de semaine dernière et ce week-end, cette fédération qui fait de réels efforts pour former professionnellement, je veux dire, ces bénévoles intéressés. Il existe même une certification. Anne Brezin, chargée de la formation professionnelle à la Fédération, participait à une émission qui sera diffusée bientôt sur Zotelli, mais qui est également écoutable, je crois, sur la page Rédac Pop de la radio. En tout cas, Daniel qui s'en occupe, va venir en fin d'émission pour vous en parler. Je vous disais donc, Anne Brezin était à cette émission et elle a parlé de cette certification, comment c'est arrivé. Et puis, d'ailleurs, elle a commencé à parler, puisque la question lui a été posée, est-ce qu'il faut être un journaliste professionnel pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Écoutez-la.
Qu'est-ce qu'un journaliste ? Alors ça, c'est un débat qui a toujours été. Carte de presse, pas carte de presse, avoir fait une école de journalisme, travailler dans un média reconnu, travailler à la fabrique de l'information. Voilà. Nous, notre posture, très clairement, moi, j'arrive dans l'audiovisuel participatif par le social. Et je rencontre des gens qui arrivent par l'artistique, d'autres qui arrivent par le journalisme. Et c'est ensemble, en fait, qu'on développe des pratiques. Et du coup, à partir du moment où je produis des contenus médiatiques, je suis dans une fonction de journaliste. Donc, nous, on défend ça, en fait. On défend que les personnes qui sont en mesure de faire de l'EMI, si on doit les borner sur la question médiatique, il faut l'ouvrir au fait d'être dans la fabrique médiatique. Toute la difficulté, c'est de le faire reconnaître en fait, par les institutions et d'ouvrir la porte, parce qu'en fait, on est un poids qui est faible. On ne représente pas beaucoup de gens. Si on regarde nos audimates, ils ne sont pas non plus une force d'action, donc d'attention par les institutions. Et du coup, moi, pour avoir un petit peu essuyé ces plâtres-là, en disant « oui, mais enfin, on en fait, on n'est pas les seuls, qualifions-nous dans cette pratique ?» Parce que du coup, passer par la pratique, c'est bien, mais comment est-ce que derrière, on aide les gens qu'on accompagne à prendre du recul ? C'est aussi un cheminement à faire, c'est aussi quelque chose à interroger. Pas juste être dans le faire, mais aussi être dans le faire et faire une petite analyse des expériences vécues. J'ai eu envie de regarder par quel biais en fait, on pouvait faire reconnaître le fait que l'audiovisuel participatif fait l'éducation aux médias. Bon, j'ai identifié 3 pistes assez classiques. La formation professionnelle, la recherche fondamentale, donc universitaire, et le réseau. Le réseau, on l'a déjà au niveau de la fédération, même si à un moment donné, on le voit bien que sur le développement de réseaux régionaux, comme on en a parlé en début de... Enfin, sur la journée de l'EMI, sur des réseaux comme Hémicycle ou d'autres réseaux qui sont en train de se monter, c'est une force de reconnaissance, se reconnaître entre acteurs et du coup pouvoir ouvrir des dialogues plus facilement. La recherche fondamentale, il y a plusieurs structures qui y travaillent. Moi, je me suis plutôt attelée sur la question de la formation professionnelle parce qu'on était aussi à un moment charnière de cette question-là, sachant qu'il est de plus en plus difficile d'être organisme de formation puisqu'il y a des normes qualité qui sont de plus en plus exigeantes. Que ça a un coût, que ça prend du temps, et que du coup, il y a beaucoup d'organismes aussi de formation qui se sont posés la question à ce moment-là en disant est-ce qu'on continue ou pas. Nous, on a fait le choix de continuer, et une des grosses motivations, ça a été de faire une formation d'éducation aux médias. Le métier n'existant pas, on a dit on n'a qu'à l'inventer, et on pourra pas ne pas nous regarder si on a inventé le métier. Entre-temps, quand on a commencé à travailler là-dessus, à vouloir s'enregistrer à France Compétences, on s'est rendu compte que le ministère de la Culture avait quand même sa petite idée là-dessus et avait missionné une enquête. Donc il y avait déjà une enquête qui était en train d'être faite sur les formes d'éducation aux médias. Et du coup, en fait, ils avançaient vers une certification. Donc nous, on avait pas mal réfléchi, on a pu contribuer à la mise en place de la certification, notamment en défendant quelques principes comme l'apprentissage par la pratique, ne pas faire de l'autonomie juste pour les enfants, donc pour tous les publics, et pas comme milieu scolaire, du coup, aussi. Voilà, quelques fondamentaux comme ça qui étaient importants pour nous et qui n'auraient pas forcément été inclus si on ne passait pas par là à ce moment-là. Et du coup, ça a été l'occasion de rencontres et de faire ensemble. Et du coup, on est maintenant 8 organismes de formation à délivrer cette certification qui est portée par les branches paritaires, donc les CPNEF, de l'audiovisuel et de la presse.
Et cette certification très importante, hein, au moins pour certains services. En tout cas, Tania de la Web TV Ligne 16 à Nice a bénéficié de cette certification. À Nice, elle travaille dans des quartiers dits prioritaires et avec des mineurs non accompagnés, parfois dans un département dont le président est Éric Ciotti. Oui, le même, celui que vous connaissez. Oui. Et donc, prudence, évidemment. Et cette certification lui sert vraiment à passer certaines étapes écoutées.
Bah, je pense que quand même c'est important parce que déjà c'est valorisant pour une personne. Par exemple, moi je viens plus de l'éducation populaire, je fais mon média, j'aurais pu continuer et puis je fais un média de proximité, donc ma localité me reconnaît. Maintenant j'interviens en collège, on a chacun dans notre territoire des dispositifs de financement aussi, je suis financée par la CAF par rapport aux quartiers populaires, du coup voilà. Mais après, quand j'ai été invitée à faire cette formation avec la Fédération audiovisuelle participative, que je connaissais plus dans le cadre de l'éducation populaire, j'aurais peut-être moins été partante si ça avait été fait par une personne plutôt académique et tout, puisque moi j'apprends plutôt dans la rue, dans l'autodidacte et tout. Donc du coup, de ce milieu-là, je me dis ouais, ça va être bon. Et en fait, ça m'a vachement aidé, outillé aussi pour améliorer, pour
un dernier mot. Nice, hein. Vous êtes à Nice, vous avez cité tout à l'heure M. Ciotti et vous travaillez avec des jeunes, donc le département. Vous avez des craintes que ça ne continue pas ou pas ?
Absolument pas, parce que le département, dans le cadre du département, c'est un dispositif en effet qui est financé par le département sur des projets pédagogiques quels qu'ils soient, et c'est les enseignants qui me choisissent. Ils pourraient choisir un journaliste, etc. Pour autant, là c'est encore dans la connaissance du réseau local qui fait que tu es reconnu, mais à un moment donné c'était plus qu'est-ce que je fais. Même les jeunes, je leur disais mais vous êtes encore là et tout. Et en fait, j'ai commencé à faire par exemple un petit questionnaire avec eux pour savoir un peu, pour améliorer qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et je me suis aperçue qu'en fait ils adoraient aller à la rencontre de l'autre avec le micro. Ça fait du lien entre les habitants d'un même territoire, et ils rencontraient des avis tellement divers, voire à des fois ils étaient surpris par la réponse, et donc ça leur ouvrait l'esprit. Moi je leur demande pas de se positionner, je leur demande simplement de recueillir, et du coup ils voyaient la richesse de leur territoire. Après, eux-mêmes sont stigmatisés, alors des fois ils existent parce qu'ils sont dissipés en classe et tout, donc du coup les profs les regardent différemment aussi, leur famille aussi. Du coup ça change un peu la donne, donc ça, moi ça m'intéresse vraiment, parce que je pense que vraiment aujourd'hui on est dans une situation où finalement c'est les jeunes générations qui vont changer la donne.
Oui, et pour certaines autres web TV participatives c'est encore plus chaud. Giorgio Menegoni est fondateur du média TV 66 à Perpignan. Oui, Perpignan, dont le maire est un certain monsieur Alliot du Rassemblement National.
Web télévision participative a été créée en 2011. Ça fait 13 ans, 12 ans qu'on est là. Et récemment, avec le changement des mairies, avant c'était mairie républicaine, bon, ça allait. On avait un rapport de confiance sans problème. Moi, je ne suis pas à ce côté-là. Hein, mais bon, il n'y a pas eu de problème. Et avec la nouvelle mairie, c'est lui, Alliot, qui est le maire.
Rassemblement national.
Rassemblement national. Ouais. Et bon, c'est créer des tensions. Parce que nous, on travaille dans les quartiers, quartiers populaires. Il y en a 9 quartiers populaires qui sont, comment ça s'appelle, prioritaires. Et bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je connais tout le monde, là. Et d'un coup, on s'est retrouvé qu'il y a un peu de difficultés à rentrer dedans, à communiquer avec les nouveaux directeurs. Ils sont pas méchants, mais voilà. Mais il y a une direction de droite, enfin, d'extrême droite, qui gère tout. Ils nous font rien de mal, mais ils nous aident pas non plus.
Mais vous, est-ce que ça vous pousse à axer à changer la forme même de vos contenus?
Non, en effet, la volonté, c'est presque de changer le lieu. Chercher on a encore une autre quartier prioritaire du village à côté, mais bon, après aussi on est dans une région des Pyrénées orientales qui a beaucoup de nature et beaucoup de reconversions professionnelles. Les gens qui reviennent à la nature, ils étaient formateurs dans l'informatique, ils sont devenus maraîchers. Voilà, et ça c'est tous les jours, il y en a. Et moi j'essaye de valoriser ce type de choses. Voilà.
Est-ce que vous avez des bénévoles, beaucoup de bénévoles dans votre
structure ? Eh bien, on avait des gens qui passaient, bénévoles. À ce moment-là, on avait décidé de fermer, arrêter. Parce qu'on a fait une réunion le mois de février, on a dit ici on n'avance pas. Mais après, on a dit on arrête, on fait quelque chose d'autre. On a dit on n'arrête pas, on change juste le statut et on continue.
On continue. Vraiment, Giorgio, valeureux, Giorgio, j'avais envie de dire. Quelques médias manquent de bras également et de sang neuf. Pierre Lavanant de TV Trégor à Lannion en Bretagne est venu aux rencontres pour voir comment ça se passait dans d'autres régions parce qu'il manque de bras, de jeunes en tout cas, il faut dire ça. Et ce qui est étonnant, parce, et la question je lui pose quand même, parce que Lannion, il y a Lannion, dans la ville de Lannion, une IUT de journalisme, eh bien les jeunes ne viennent même pas. Voilà, Pierre Lavanant, écoutez.
Oui, elle a plus de 30 ans parce que elle s'est appelée Trégor Vidéo pendant beaucoup d'années. Elle a eu aussi des salariés. Elle était importante. Elle a eu un rôle important au début de la. Ça s'appelait la Fédération des vidéos de pays et de quartiers, l'ancêtre de la Fédération de l'audiovisuel participatif. On y était. On avait des salariés. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, faute de subvention, on n'a plus de salariés. On marche actuellement avec des bénévoles. Donc, c'est des activités qui sont moins importantes que par le passé. Et notre problème est de recruter des bénévoles, mais plus jeunes, parce que nous sommes beaucoup de retraités. Je suis venu ici pour participer à cette journée aujourd'hui consacrée à l'EMI, c'est-à-dire l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est un moyen d'avoir des contacts avec les enseignants, avec les élèves, bien sûr. Mais le constat, actuellement, c'est qu'en Bretagne, on est plutôt en retard. Donc je suis venu apprendre les expériences qui se déroule en Occitanie, qui se déroule dans les Hauts-de-France, où il y a beaucoup à apprendre.
Restons un peu sur le recrutement des jeunes. Vous avez à Lannion une IUT, une école de journalisme, et même ces jeunes-là ne viennent pas vers vous.
Non, il faut aller les chercher, et suivant les années, on arrive à avoir quelques élèves. Mais le problème, c'est que ces étudiants ont quand même beaucoup de travail. Ils travaillent aussi à la semaine, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, ils ne savent pas exactement comment va être organisé les cours et leur travail. Et donc c'est assez difficile d'avoir des contacts. On en a et on espère les développer. Et on a aussi à Lannion un nouveau département qui s'appelle MMI, c'est-à-dire les métiers du multimédia de l'information. C'est un département qui recrute et qui, comme d'une manière générale dans les IUT, est en train de passer de 2 ans à 3 années. Donc on attend beaucoup de cette évolution.
On leur souhaite de continuer longtemps, aussi longtemps que possible. Pierre Lavanant, à l'instant, TV Trégor de Lannion. Connaissez-vous La Friche ? La Friche, c'est un... Au-delà d'un média, c'est un regroupement de personnes, une association qui
amoureux de l'information, en tout cas de l'éducation aux médias. La Friche paraît sous plusieurs supports, papier, numérique et audio. Timothée Vinchon de La Friche a été interviewé par Lucas. Nous avons fait également, nous aussi, un travail ensemble, toute la rédaction étudiante, moi, Daniel, qui va venir dans un instant dans le studio. Mais pour l'instant, on écoute Timothée Vinchon de La Friche.
La Friche, c'est un collectif avec des journalistes, des documentaristes, des personnes issues du milieu social, et on travaille à l'éducation aux médias, à l'éducation populaire aux médias, en essayant de faire des différentes productions de façon participative et des résidences sur des territoires. Dernièrement, on a lancé une revue qui s'appelle Contre-jour. Une revue qu'on aime bien dire à l'intersection du journalisme et de l'éducation populaire, où l'idée en fait c'est de mettre en valeur les différentes productions qui ont été faites lors d'ateliers d'éducation aux médias. Souvent en fait on se dit c'est des productions faites par des jeunes, faites par des publics et pas par des journalistes professionnels, donc ça n'a pas forcément vocation à être vraiment diffusé. Nous on a pris un peu ce contrepoint en se disant en fait depuis le temps qu'on fait ces ateliers, il y a énormément de choses. Énormément de paroles qui nous ont été données, énormément de confiance qui nous ont été offertes, et des paroles souvent très fortes qui disent quelque chose, qui portent un combat. Et on s'est dit qu'il fallait les mettre dans un bel écrin, et on a proposé une revue qui s'appelle Contre-jour, qui est biannuelle et qui nous permet d'avoir ce retour et cette valorisation de ce qu'on fait en atelier.
Et concrètement, quel genre de production journalistique on va pouvoir retrouver dans Contre-jour?
Elles sont à chaque fois en lien avec les territoires sur lesquels on travaille. Il y a plusieurs choses. Il y a par exemple un reportage sur un quartier de Marseille qui s'appelle La Cravache, où on a fait une résidence, où on a fait des ateliers de journalisme, donc des ateliers radio, des ateliers vidéo, des ateliers photo, dans un quartier où il y a une vraie problématique sociale, à savoir que le quartier est en train de... Ils sont en train de l'enfermer avec un mur. Alors il reste bien sûr une ouverture, mais le mur est du côté vers lequel on pouvait aller vers les écoles, vers les commerces, etc. Et ce quartier se retrouve finalement un peu enclavé par d'autres résidences plus riches. Les enfants, par exemple, doivent faire tout un trajet. Là où ils faisaient un trajet de 5 minutes pour aller à l'école, maintenant ils en font 30 en passant par des grands boulevards de Marseille. Donc ça questionne un peu la démocratie sur un territoire. On n'a pas tous accès à l'origine aux outils médiatiques, mais ils sont pas si loin, ils sont pas si éloignés, et souvent par la pratique, par le faire, on peut s'en emparer assez facilement. Et nous, c'est vraiment ça qu'on porte, c'est que ces outils médiatiques qui permettent de se défendre dans le monde, en fait, ils sont à portée de main, il faut juste s'en emparer.
Merci beaucoup, Timothée.
Merci. Lucas, nous a rejoint en studio. Est-ce que le micro marche? Vas-y. Mais non, ça ne marche pas encore.
Ah non, ça marche.
Ah bah si, là, c'est bon. Il fallait juste que je démute, mais bon, voilà, je ne sais pas faire de technique. Voilà. Et Daniel également.
Salut, Hassan.
Salut à vous deux. Lucas, tu as donc interviewé Timothée Vinchon. Ça, c'est dans quel cadre? On va le retrouver sur l'émission. Tu as fait une émission également, on va en parler. Mais là, l'interview de Timothée, c'était...
Timothée, c'était avec Jackson,
oui.
C'était le réalisateur de Écoute les murs tombés,
oui.
Qui appartient au groupement La Friche.
Oui, absolument, ils font un travail excellent,
voilà,
excellentissime. Ouais.
Un super travail de documentaire, et c'est un média participatif. Et ils étaient invités aux rencontres de l'audiovisuel participatif la semaine dernière au 108.
D'accord. Et donc l'émission que tu as pu faire, c'était au Ponton, à la Guinguette, c'était vendredi soir, je crois. Et il y avait qui?
Alors, il y avait du monde. C'était une émission assez riche et variée. Évidemment, on a invité les acteurs des rencontres de l'audiovisuel participatif, en passant par Dominique Flora, qui est qui essaye d'organiser la fédération de l'audiovisuel participatif. Ensuite, on avait également de présent Clémence Boulefroy, qui appartient à Carmen, et aussi à un groupement de médias citoyens dans les Hauts-de-France.
Hémicycle.
Hémicycle, je cherchais le nom.
Un excellent boulot également.
Il y avait également d'autres télé et radio citoyenne. J'ai la liste devant les yeux, ça sera plus simple.
Oui, parfait.
Donc,
merci,
Tania Cognier de l'association Ligne 16. Oui. Samuel Pastel, évidemment, animateur multimédia pour Zotelli, qui a tout chapeauté par rapport aux rencontres de l'audiovisuel participatif et qui travaille au 108. Notre fameux Daniel Begdad. Un petit coucou, Daniel.
Coucou.
Voilà. Animateur d'accès à l'expression radiophonique et à l'expression citoyenne sur Radio Campus Orléans. Ensuite, il y avait aussi Laurent Lapeau de TV Baie de Somme, Lila Pasco de TV Buissonnière, Guillaume Tri de TV Mille Vaches, Hervé Gigaroff de Mo TV, Micha Gallery de TV Mouche, Mathieu Desbordes de Cométique. Et aussi également, dans les invités du public, on avait un pigiste pour CB News qui est Thomas Moisan, et Marilène et Damien qui venaient du public du Ponton, et on a fait un petit quiz ensemble, et on a parlé de journalisme citoyen et de journalisme participatif, et c'était très intéressant, le temps d'une bonne heure et demie presque, de parler de au soleil, proche de la Loire, avec un petit verre de bière pour les clients, c'était super.
Et cette émission, on la retrouve sur la page de la Rédac Pop, Daniela.
Oui, de la Rédac Pop, donc ça c'est l'émission du vendredi soir. Okay. Et juste pour rebondir sur la question que tu as posée à Lucas, donc il y a eu un plateau Zotelli Rédac Pop le samedi après-midi, et c'est dans ce plateau-là qu'on retrouve l'interview de Vincent, je prononce mal son nom, le journaliste indépendant sur Écoute les murs tombés, que tu viens de citer.
Timothée Vinchon.
Pardon, Timothée Vinchon.
Timothée Vinchon.
Vinchon, c'est oui, ça, voilà. C'est, ça. C'est dans ce plateau-là qu'on retrouve l'interview qui a été faite avec Lucas et Jackson.
Et puis également, sur le plateau du Ponton, on avait le témoignage de Daniel Pseny, qui est ancien journaliste au Monde, et puis les comparses des rencontres de l'audiovisuel participatif, pardon. Le premier jour, se sont rendus dans la rue à Orléans et ont réalisé un micro-trottoir qui est très intéressant.
J'ai
à ce sujet.
Bien envie de l'écouter, tout ça. Enfin, voilà, donc
tout ça, sur le site, c'est déjà en ligne, hein, sur le site de la Rédac Pop. Donc, l'émission radio du vendredi soir et l'émission télé qui a été aussi transformée en émission de radio pour être diffusée sur Radio Campus le samedi entre 15h et 16h. Voilà, toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Rédac Pop.
Daniel, je vais pas. On a encore 15 minutes. En tout cas, tu as beaucoup bossé sur ces rencontres. Tu fais de l'éducation aux médias. T'as pas pu participer aux ateliers et vas-y.
Profite-en
là.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il y avait des manques pour toi dans ces rencontres? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites, d'autres
qu'est-ce
qui n'ont pas
été dites? Qu'est-ce qui a manqué? Alors après, je pense que toutes celles et ceux qui étaient présents, alors pas au niveau national, puisqu'il y a une fédération nationale. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord en région centre pour dire qu'effectivement, il faut que l'on se mette en réseau en région centre. C'est ce qui fait d'ailleurs qui explique le succès des Hauts-de-France.
C'est ça.
Voilà la nécessité de se mettre en réseau pour partager des expériences, aussi pour assurer une veille, parce que les médias, ils évoluent très vite. Hein. C'est pas toi que je vais apprendre ça, Hassan, ni à toi, Lucas. Les médias évoluent très vite, et ce qui se passe souvent, c'est que les adultes que nous sommes et qui s'adressent des fois à des publics d'enfants, de jeunes, ou des publics éloignés justement de ces outils médiatiques, peuvent être vite dépassés par ces nouveaux outils qui nous tombent dans les mains. Et donc, voilà la nécessité de se mettre en réseau pour partager des expériences, pour partager des savoir-faire, pour aussi se parler entre pairs, parce que des fois, alors c'est vrai que l'éducation aux médias relève de l'éducation populaire dans une certaine mesure.
Et de quelle façon?
Et on peut manquer d'interlocuteurs, interlocutrices, parce que c'est ce qui s'est dit aussi, des manques aussi, peut-être encore renforcer les liens déjà existants avec l'éducation nationale.
Oui.
Voilà, on est complémentaire de l'éducation nationale. Alors l'éducation nationale fait des choses dans son coin, on en fait dans le nôtre, et ça peut être intéressant également de mutualiser, donc faire réseau d'une part, mutualiser d'autre part. Et puis le manque, il est bien évidemment celui du nerf de la guerre.
Bien sûr.
Quels sont les moyens alloués par le gouvernement? Alors on peut citer ce célèbre exemple de Jean-Michel Blanquer, 1 million d'euros pour qu'il y ait une web radio dans chaque collège. peu d'établissements ont suivi, c'est insuffisant en fait, on malheureusement.
Est on est d'accord, tu as pu vérifier hein, sur place. Bah,
sur place, oui. Quand on regarde, parce qu'il s'agit d'un cofinancement, ça représente 900 euros et c'est tout. On a quoi ? On a la table de mixage, les micros, et il nous manque, enfin je parle des enseignants, je parle pour eux, il va leur manquer donc la formation qui va
bien
avec.
Sûr, évidemment.
Les problématiques aussi que peuvent rencontrer les professeurs documentalistes dans leurs établissements pour susciter, j'allais dire, des envies et les motivations de leurs collègues pour, par exemple, faire une émission en lien avec, je ne sais pas moi, les matières de sciences physiques, d'histoire et faire de l'interdisciplinarité. Enfin, l'éducation aux médias, dans l'entre-soi, c'est normal, hein, voilà, de la fédération, mais on manque aussi, j'allais dire, de visibilité extérieure, quoi. On n'est pas que des gens qui aiment bien s'amuser avec des micros et des caméras. Vas-y, Lucas, oui.
Puis j'ai l'impression aussi que c'est un métier qui fait peur un petit peu, parce qu'on en parlait justement avec les jeunes de Atlas Média de Jean Rostand, donc à Orléans, Argonne, et il nous disait que, on a fait une petite discussion, comme je suis étudiant en journalisme, et il me disait les journalistes parfois sont tués, c'est un métier dangereux, l'accès à l'information est parfois un peu délicat, et c'est vrai que ce genre de témoignage de la part d'élèves de 5e, ça fait un peu réagir, parce que en fait, ils ont une consommation des médias qui est un peu celle de leurs parents. Après aussi, ils suivent les médias sur les réseaux sociaux. Mais ça a beaucoup changé. Et puis l'image du journalisme, certes, il fait fantasmer, il paraît intéressant, mais il est surtout beaucoup critiqué, j'ai l'impression.
Ah, c'est clair, c'est clair. Ces assises, j'allais dire, ces rencontres se sont terminées avec un atelier super intéressant, évidemment, parce que ce sont beaucoup de télévisions locales. Le truc, c'est d'être en streaming ou alors de partager un lieu où on pourrait nous aller regarder ensemble. Et bien, ça existe. Je ne savais pas que ça existait. L'atelier a été animé par Manu, qui est médiateur numérique à la Labo Média. Je l'ai chopé, mais vite fait, il était pressé. Donc, je lui ai demandé de nous expliquer ce que c'était le PeerTube, je crois.
On a parlé donc d'une solution, c'est une plateforme de vidéo en fait qui s'appelle PeerTube. C'est une solution en logiciel libre qui vient un peu en concurrence au modèle YouTube, Vimeo, Dailymotion, où c'est de la centralisation à mort par des géants du web. Bon, bah là, chacun peut décider d'installer son petit serveur avec son logiciel PeerTube, de mettre ses vidéos, que ce soit la Fédération de l'audiovisuel participatif ou un club de karaté, ça marche aussi. Et on va pouvoir gérer nos vidéos, importer des vidéos depuis YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. On va pouvoir faire du live. Hein, du streaming, etc., avec cet outil qui, par ailleurs, est libre. Voilà.
Ah ouais, et le problème de ces médias-là, c'est d'être en streaming aussi.
PeerTube gère le streaming. Voilà, on peut le faire en lien avec OBS, tout ça, comme les gens ont l'habitude sur Twitch, par exemple, de faire ça. On peut le faire avec PeerTube.
Et tout ça existe maintenant.
C'est déjà le cas. Ça a été financé il y a quelques années grâce à une initiative de Framasoft, avec un peu de financement participatif. Et en fait, avec quelques dizaines de milliers d'euros, on a développé un logiciel qui est tout aussi intéressant, je pense, que la plateforme YouTube.
Ah oui. Ben oui, c'est mieux que la plateforme YouTube, évidemment. Merci de votre participation. Je ne sais plus, ils sont en train de discuter dans le studio d'à côté. Merci. Je disais merci de votre participation. Lucas, des choses à annoncer pour toi. Là, ça continue cette semaine. Les midis, tu...
Oui.
Tu
animes ouais. Alors, dans Écoute ta fac, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, jeudi, on aura le rendez-vous Guinguette, le rendez-vous hebdomadaire d'Écoute ta fac. Cette semaine, on va accueillir Martin Lavaux de la Guinguette éphémère L'Escale, qui va nous parler des activités qu'il y aura ce week-end à Combleu, dans les anciens locaux d'IBM. Donc,
je savais même pas que ça existait.
Des concerts, un DJ set avec Viviane de Radio Campus Orléans.
Très bien, très bien.
Et puis aussi, également, marché des producteurs et une petite pièce de théâtre d'Alex Lutz,
oui,
le comédien. Qui vit à Combleu.
Ben oui, mais justement, je connaissais de nom, mais je savais pas qu'il y avait tout ça à Combleu. Ben on va faire ça. Tu vas dérouler de toute façon le programme. Il faut être à l'écoute jeudi à midi.
Voilà.
Entre midi et 13h.
Et demain, une émission avec le Saloon. Donc c'est un événement qui aura lieu au 108 en fin de semaine. Donc on va les accueillir demain pour parler notamment hip-hop.
Très bien. Daniel ?
Les actus, c'est ça ?
Oui.
Les actus, bah, c'est la fin de l'année, donc la finalisation de pas mal de projets scolaires. Presque tous les projets, d'ailleurs, sont finalisés. Et puis, bah, c'est l'été qui arrive, donc avant Hop Hop Hop, dont la programmation a été dévoilée récemment, il y aura E-Gamin, organisé par l'Astrolabe, et nous y serons présents, bien évidemment, avec une nouvelle version cette année de, concernant la présence de Radio Campus. On ne sera pas dans l'interview d'artistes, mais plutôt dans des jeux radiophoniques, de manière à associer le public, justement, à l'atelier radio. E-Gamin, les festivals, hein. Toi, j'imagine que c'est pareil à ça. On fait notre petit en France. On est en France quand même.
Il y a quelques festivals à venir.
Il y a pas mal de festivals sur lesquels on va traîner. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Il y a par exemple, il y a l'Unisson qui va accueillir Tracy Dessa, qu'on avait déjà accueilli à Hop 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 et qui sera présente, on peut l'annoncer aux auditeurs auditrices, le 15 juin. C'est bien ça, Lucas, tu me corriges, le 15 ou le 16 ?
C'est le 15.
C'est le 15 juin à partir de 18h à la Maison pour tous Roll-Tanguy pour un échange autour de l'égalité homme-femme. Tracy Dessa qui est très engagée dans l'intersectionnalité des luttes. Non seulement pour l'égalité homme-femme, mais pas seulement. Ça promet d'être intéressant. Donc c'est Radio Roll-Tanguy qui sera présent aussi.
Et la semaine prochaine, on va aussi accueillir lundi l'établissement français du sang qui va nous parler de son événement de vendredi à dimanche, si je ne dis pas de bêtises, qui aura au Coposanto pour faire une grande collecte de dons du sang, comme en ce moment
il manque
du sang, il y a une grosse pénurie en France.
Absolument. Merci. Et puis pour ça sera vraiment le mot de la fin. J'aurais voulu parler de la manifestation aujourd'hui que j'ai pas pu faire puisque l'émission était.
Mais...
Ouais, absolument. J'allais dire que ce midi, Lucas et Rodrigue, vous y êtes allés, vous avez fait un reportage qu'on peut écouter dans le podcast de Écoute ta fac de ce midi. Hein, c'est ça ?
Voilà, à la fin de l'émission, vous pouvez écouter le reportage. Donc, Rodrigue a interrogé une représentante du FSU par rapport vraiment aux revendications syndicales des professeurs et des universitaires par rapport à la réforme des retraites. Et on a aussi le témoignage d'un retraité du syndicat Sud et de deux syndicalistes de la CGT.
Ah, tout ça, podcast, Écoute ta fac. Merci à vous deux d'être venus sur la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Dans la suite, c'est Raidon, je crois que ça sonne à la porte, ils arrivent. C'est Campus Orléans et à Campus Tours à 21h, Jazz Story. On va terminer cette émission en musique avec l'album posthume d'un monsieur que j'adore. Monsieur Tony Allen, celui qui a créé l'Afrobeat avec Monsieur Fela. Un album posthume sort ces jours-ci, je crois que c'est le 16 juin, avec Adrian Young. Ça s'appelle Don't Believe the Dancers, qu'on écoute pour finir à Bâton Rompu ce soir. La semaine prochaine, les amis du monde diplomatique, passez une belle soirée, une belle semaine et à mardi. Ciao.
Yeah. Raiden.